Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Présidentielle 2025, le moment choisi par certains partis politiques d'annoncer des candidatures est opportun selon Geoffroy-Julien Kouao. Pour le politologue, mettre en place une stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir à 19 mois des élections est loin d'être prématuré. C'est officiel, la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale va accompagner la Côte d'Ivoire dans la détection précoce de maladies pour une meilleure prise en charge. Le lancement du démarrage des activités des projets de développement des services d'imagerie médicale et de laboratoires en partenariat public-privé a eu lieu le lundi 25 mars à Abidjan Plateau. Hors de nos frontières au Mali, les autorités interdisent à Bamako les activités d'une coalition d'opposants. En Côte d'Ivoire, nous reviendrons pour la revue des titres de la presse et ce sera avec Jean-Mélène Bitti. Et puis nous terminerons avec l'invité de la rédaction qui ce jour est Dr Séverin Kouamé, sociologue et enseignant-chercheur. Il planchera sur les leçons à tirer des récentes élections présidentielles au Sénégal. Sur le sujet, Dr Séverin Kouamé échangera en fin d'édition avec Francis Cassis. Depuis quelques jours, des partis politiques font des annonces de candidature pour la présidentielle de 2025. Pour le juriste et politologue Geoffroy-Julien Kouao, cette pratique est normale et pas du tout précipitée, son argumentaire.
Je pense qu'à 20 mois de l'élection présidentielle, le moment opportun pour les uns et les autres d'annoncer leur candidature, ce qui d'abord leur permet d'informer la population et ensuite de mettre en place déjà leur stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir. Je pense que lorsque on veut aller à une élection comme celle du président de la République, il faut commencer tôt. En ce sens que cela suppose la mobilisation de gros moyens en termes de personnel, de ressources humaines, mais aussi de logistique et surtout de moyens financiers. Tout cela doit être couronné par la mise en place d'un projet de société. Donc c'est maintenant que les principales formations politiques ou les principales personnalités qui veulent aller à la conquête ou à la conservation du pouvoir, c'est le moment idéal d'annoncer leur candidature.
Est-ce que cette façon de faire est prévue par la loi électorale ivoirienne?
Non, la loi ne fait que régir la période de propagande électorale, c'est-à-dire la campagne électorale, mais la loi ne fait pas une date précise pour annoncer sa candidature. Ce n'est que des intentions de candidature.
Le juriste et politologue Geoffroy-Julien Kouao, joint par Jean-Claude Mabéa. Parlons à présent de violences faites aux femmes et aux filles. 416 cas de féminicide enregistrés entre 2019 et 2020 en Côte d'Ivoire. Ce sont les chiffres issus d'une enquête menée par l'ONG CPDFM, citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités. Comparativement à une précédente étude, l'association estime le nombre en haut et déplore ce fait. Sur les raisons de cette montée du féminicide, retrouvons Sylvie Apata, la présidente de l'ONG CPDFM.
Les féminicides sont la résultante des violences conjugales. Donc, plus les violences sont observées au sein des ménages et que les résolutions à l'amiable demeurent, plus nous constatons des cas de femmes qui sont battues jusqu'à ce qu'elles décèdent à la suite de ces coups-là.
Qu'est-ce qui explique le meurtre de ces femmes, de ces filles?
C'est le fait que dans l'esprit des compagnons de ces victimes-là, la femme est leur possession. Et donc, elle me doit obéissance, soumission totale. Et dès que je commence à sentir que je perds le contrôle sur la personne, alors juste de violence. Et ce sont des violences répétées qui finalement arrive au coup fatal. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que les cas de féminicide sont réglés à l'amiable. Et ça reste au sein des familles. Il faut prendre le problème à bras le corps et arrêter de résoudre les problèmes à l'amiable. Mais une chose est certaine, c'est que quand il s'agit des faits de meurtre, la justice réagit toujours. Donc ce que nous, on peut continuer de faire et d'exhorter les populations à la dénonciation. Maintenant, au niveau étatique, il faudrait continuer de renforcer les mécanismes de prise en charge. Il convient que l'infraction féminicide soit dans le code pénal pour que justement la question soit encore mieux traitée et que les auteurs ne restent pas impunis. C'est tout le monde qui est exposé à cette violence-là. C'est pour ça que tout le monde doit unir les efforts pour l'endiguer. Et il faut agir et agir à temps.
Sylvie Apata, la présidente de l'ONG CPDFEM, citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités. Pendant ce temps, l'Organisation internationale du travail, OIT, se préoccupe du recrutement et du placement des candidats à la migration en Côte d'Ivoire. Une rencontre des partenaires pour valider l'étude sur le cadre légal et réglementaire régissant ces activités en faveur des candidats à la migration du travail a eu lieu le jeudi 21 mars à Abidjan. Alida Ndritano nous en dit davantage sur cette initiative. Elle est la coordinatrice nationale du projet FER, programme intégré sur le recrutement équitable de l'OIT.
Cette étude était d'aider l'OIT et ses partenaires pour comprendre l'arsenal juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui encadre juridiquement le recrutement des travailleurs ivoiriens migrants ainsi que les travailleurs migrants qui résident en Côte d'Ivoire. En fait, il y a une première étude qui avait eu lieu en Tunisie et cette étude-là qui a balayé rapidement l'arsenal juridique ivoirien a présenté un vide juridique en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants ivoiriens, c'est-à-dire les travailleurs ivoiriens qui partent à l'étranger, ainsi que les travailleurs migrants ici. Certes, il y a une loi qui protège la traite des personnes, mais on se rend compte qu'au niveau des travailleurs migrants, il y a un vide juridique. Alors, cette étude-là que nous sommes en train de valider nous a permis de comprendre au niveau du recrutement qu'est-ce qu'il existe comme lacune, qu'est-ce qu'il y a comme défi et quelles sont les recommandations pour pouvoir combler ces différents défis et ces lacunes.
Alida Ndritano, coordinatrice nationale du projet FER, programme intégré sur le recrutement équitable de l'OIT. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et la Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, ont procédé lors d'une cérémonie au lancement des activités des projets de développement des services d'imagerie et de laboratoires d'analyse biologique en partenariat public-privé. Sur cette activité qui s'est tenue le lundi 25 mars à Abidjan Plateau, on fait le point avec vous, Paul Bénédicte.
Les objectifs de ce projet avec Tony Vergène, représentant de la Banque mondiale.
Combler des lacunes cliniques en matière d'accès, disponibilité et la qualité des services de radiologie et laboratoire dans l'ensemble du pays. D'améliorer l'accès équitable aux services de radiologie et laboratoire, tout en maintenant l'accessibilité financière des services diagnostiques aux populations. La Banque mondiale se réjouit donc d'accompagner le gouvernement pour la réalisation de cet objectif.
La surveillance et la détection des maladies sont les composantes essentielles de l'épidémiologie en matière de politique de santé. Josiane Kouida, représentante de la Société financière internationale.
Nous sommes particulièrement encouragés par de nombreuses réformes de l'offre publique et privée de soins menées par le ministère de la Santé dans le cadre de l'extension de la couverture maladie universelle. L'investissement du ministère de la Santé a été crucial pour l'organisation réussie de cette mission de démarrage et sera un facteur clé de succès pour une mise en œuvre réussie du projet.
Pour Pierre Damba, ministre en charge de la santé, la couverture de ces deux pôles régionaux implique ce qui suit.
La construction et la rénovation des 14 laboratoires d'établissements sanitaires publics dans une approche de continuum de soins de santé. Cela reflète notre engagement à rapprocher les services de santé de qualité de nos concitoyens et à accroître leur accessibilité géographique et financière. Nous avons le devoir de nous rassurer que chaque district sanitaire pourra offrir des services de diagnostic de qualité. Remercier la Société financière internationale pour son soutien et son expertise dans la mise en œuvre des projets.
Le démarrage de cette activité concerne les pôles d'excellence de santé d'Abidjan et d'Abengoro.
Restons dans le domaine de la santé. Une mission composée d'émissaires du groupe de la Banque mondiale, des ministères des Finances et du Budget, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, était récemment à Boaké. Objectif, s'imprégner du système d'information digitalisé en milieu hospitalier. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS. On en sait un peu plus avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bekè.
En vue de se rendre compte de la mise en œuvre du système d'information digitalisé en milieu hospitalier, la délégation a visité entre autres le bureau des entrées, les locaux de la médecine générale, la maternité et le laboratoire d'analyse médicale de la PMI, protection maternelle et infantile de Bouaké Sokoura. Madeleine Yao, coordonnatrice du projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS.
L'importance de l'outil comme un élément facilitateur de leur mission sur le terrain, mais aussi un élément qui leur donne plus de crédibilité à cause de la qualité des prestations qu'ils peuvent apporter aux clients et à ceux qui fréquentent le centre.
Diop Saïdou, représentant du projet PAGDS à la Banque mondiale.
Nous avons pu constater la joie du personnel de santé qui sent une amélioration dans leurs conditions de travail, non seulement en termes de gain de temps, mais aussi en termes de traçabilité.
Satisfaction également du directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Aka Kofi Charles.
Il y a une amélioration du circuit et il y a une traçabilité qui permet à tous ceux qui sont connectés au système de pouvoir avoir les informations concernant ce malade. Cette digitalisation améliore donc les services.
La deuxième phase du projet d'amélioration de la gouvernance des services de base aux citoyens, démarrée il y a quelques mois, prend fin en décembre 2025. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
À l'international, les autorités maliennes ont interdit les activités à Bamako d'une coalition d'opposants pour ce qu'elles qualifient de menace de trouble à l'ordre public. La coalition Synergie d'Action pour le Mali s'est montrée très critique à l'égard de la junte au pouvoir et a estimé les attentes du peuple malien loin d'être satisfaites. Créée à la mi-février 2024, cette coalition est formée de membres de 30 partis et formations d'opposition, apprend l'AFP. Et puis, pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté le lundi 25 mars une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Si l'abstention des États-Unis marque un tournant majeur selon des spécialistes, la question de l'application concrète du texte se pose désormais, et ce, sur le terrain. On écoute à cet effet Bamba Abdoulaye. Il est professeur des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et a été joint par Gapienan Ouattara.
Le vote de la résolution d'un cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité peut être perçu comme un premier signe vers la fin de ce conflit qui a fait tellement de victimes.
Est-ce qu'on pourrait parler d'une résolution contraignante?
Une résolution contraignante, non. Il faut se donner les moyens pour contraindre Israël dans ce sens. Or, vous savez que juste après le vote de la résolution, les États-Unis ont clarifié leur position pour dire que ce n'est pas un abandon, un retrait de soutien à Israël. Donc, cette résolution peut, en théorie, avoir une dimension contraignante, mais dans sa pratique, dans l'applicabilité, je pense que elle ne sera pas contraignante pour Israël, qui a déjà annoncé les couleurs. Il faut essentiellement comprendre que cette guerre est devenue impopulaire. Israël est devenu impopulaire vu le nombre de victimes à Gaza, plus de 30 000 morts. Et donc, naturellement, les autorités américaines doivent tenir compte de cette impopularité à l'échelle internationale pour essayer de donner l'impression qu'elles sont à l'écoute également de l'opinion internationale. Ce qui, dans un premier temps, peut expliquer donc cette abstention des États-Unis.
Malgré cette décision du Conseil de sécurité, Israël entend toujours mener sa guerre tant que les otages ne sont pas libérés.
Oui, parce que Israël est sûr d'une chose, bénéficient toujours du soutien des États-Unis. De façon théorique, les Américains affichent cette position, mais dans la pratique, ils vont toujours continuer à soutenir Israël sur la nécessité de continuer cette guerre qui a fait trop de morts.
Juste après, le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, qu'à l'instant vous écoutiez. Passons à la revue des titres de la presse avec vous, Jean-Mélène Bitti. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Vos journaux de ce jour s'intéressent au dernier tête-à-tête Macron-Ouattara à l'Elysée et là-dessus l'Inter lève le lièvre en affichant candidature à la présidentielle en Côte d'Ivoire, sécurité sous-régionale, révélation sur la dernière rencontre Ouattara-Macron. Il est suivi par l'expression qui revient sur les dessous de cette rencontre. Enfin, Soir Info sur le même sujet, revenant sur le dîner à l'Elysée vendredi dernier. Titre, ce que Ouattara et Macron se sont dit. Il y a ce projet de loi de l'endettement présenté hier au Parlement, ainsi sujet qui est diversement interprété par plusieurs journaux ce matin. À ce propos, le nouveau réveil est sans équivoque. La loi de l'endettement, la dette en danger pour la Côte d'Ivoire. Dans la même veine, Dernière Heure Monde a fait savoir que les députés PDCI ont voté contre le projet de loi sur l'endettement. À l'opposé de ces journaux, les journaux proches du parti au pouvoir ont un autre postulat sur le même sujet. À l'expression et le jour plus dédié prétendu surendettement de la Côte d'Ivoire, le ministre des Finances démonte la manipulation de l'opposition. Le patriote lui met en manchette port, autoroute, électricité, eau, université. Voici où va l'argent de la dette. Pour faire complet sur le sujet, Le Matin annonce que le ministre Adama Koulibaly a été magistral devant les députés hier. Cette grève annoncée des producteurs de café cacao figure en bonne place de cette revue des titres. À ce niveau, l'Inter met à sa une Kanga Kofi reconduit à la tête de l'ANAP aussi. Pour 3 ans, la grève du jeudi maintenue. Même son de cloche chez le Nouveau Réveil qui fait savoir que les syndicats de planteurs entrent en grève. Notre voix, lui, sur le même sujet, sonne l'alerte à la grève. La rencontre du Premier ministre Robert Grimombé avec les bénévoles de la dernière CAD 2023 intéresse également vos journaux de ce jour. Sur ce sujet, le sort ivoirien annonce CAN 2023, Mambé salue le professionnalisme des volontaires et bénévoles. Fraternité Matin lui revient sur ce que gagnent les membres du Corps national des volontaires. On termine cette revue de titres de vos journaux avec la victoire des éléphants hier en match amical contre l'Uruguay. Premièrement, Super Sport affiche match amical la Côte d'Ivoire-Uruguay, éléphant, taille patron. On termine avec l'avenir qui met à sa une. Les éléphants font respecter leur statut de champion d'Afrique. Voici qui met fin à cette revue des titres de vos journaux de ce jour. Merci à vos kiosques à journaux et bonne lecture.
Merci à Jean-Mélène Bitti qu'on retrouvera dans l'édition de 8h. L'invité de la rédaction de ce jour est sociologue et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Pour Dr Séverin Kwame, il y a des enseignements à tirer de la récente élection présidentielle au Sénégal, et ce, au regard du choix fait par le Conseil constitutionnel de rester intègre vis-à-vis de la loi, mais également le choix des électeurs de plutôt prioriser les projets de société des candidats. Sur le sujet, Dr Séverin Kwame entretien avec Francis Cassi.
Docteur Séverin Kwame, bonjour.
Oui, bonjour, M. Cassi.
L'élection présidentielle vient de se dérouler au Sénégal. Quel enseignement pour la classe politique ivoirienne?
Les enseignements sont multiples et ne s'adressent pas qu'à la classe politique ivoirienne, à l'ensemble de la classe politique africaine. Tout le monde se plaît à dire que les institutions sénégalaises sont fortes. Oui, les institutions peuvent être fortes, mais ce sont des individus qui sont porteurs d'un certain nombre de valeurs qui rendent nos institutions fortes. Le Conseil constitutionnel aurait pu s'aligner sur les velléités du président Macky si derrière ces institutions, il n'y avait pas des individus qui étaient porteurs de valeurs. Donc pour moi, la première des choses en termes d'enseignement, il n'y a d'institution que d'hommes qui incarnent un certain nombre de valeurs, qui sont porteurs de valeurs. Donc pour moi, c'est ce qu'on peut tirer comme premier enseignement de ce qui se passe au Sénégal. Le deuxième enseignement, pour moi, c'est le travail du terrain. Aujourd'hui, on voit le président Faye, mais derrière le président Faye, c'est le pasteur. C'est tout un travail de fourmi qui a été fait sur le terrain, sur le temps long. Donc voilà, on ne s'improvise pas candidat. On travaille à offrir, à donner une offre politique dans laquelle les citoyens se reconnaissent.
Alors donc, à vous entendre, pour vous, les institutions sénégalaises, notamment le Conseil constitutionnel, ont joué un rôle très important dans ce qui est arrivé aujourd'hui comme démocratie au Sénégal.
Les institutions, mais les individus qui animent ces institutions. Pour moi, les institutions restent des coquilles vides si elles ne sont pas animées par des hommes de valeur. Et c'est cela qui fait la différence.
Les hommes de valeur, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Tant qu'on n'a pas des gens animés, j'insiste là-dessus, par le sens de la responsabilité. On a beau se draper du manteau de ce qu'on a telle ou telle institution, les choses ne bougeront. Donc pour moi, d'abord, c'est des hommes qui ne cèdent pas à la pression de qui que ce soit, mais qui n'ont que pour seul juge le peuple, leur conscience et ce que l'institution leur donne comme mandat.
Ah donc, vous parlez de leur intégrité, de leur honnêteté vis-à-vis de la loi.
Voilà, pour moi c'est ça, ces hommes qui sont capables de donner aux institutions toute leur envergure.
Mais il y a quelque chose qu'on pourrait vous rétorquer. Comment est-ce que quelqu'un qui a été nommé président du Conseil constitutionnel par le président de la République, vous voulez que cette personnalité-là aille contre le président de la République?
Mais quelle est la boussole à partir de laquelle ils exercent la responsabilité qui est la leur? Le tout n'est pas qu'on soit nommé. Le plus important, c'est que au-delà de ce qu'on a été nommé, on a justement pour élément de référence justement sa conscience. Et j'insiste là-dessus, les tests qui régissent la fonction.
Venons-en maintenant aux politiques ivoiriens. Quel enseignement on doit tirer de ce que nous venons de voir tous au Sénégal?
Nous n'avons pas de morale à faire à qui que ce soit ici. Mais le plus important à retenir par rapport à l'expérience sénégalaise, il faut que l'offre politique soit lisible. Aujourd'hui, on a le fétichisme de l'âge. Non, c'est pas l'âge, c'est l'offre politique. Donc on peut avoir 25 ans, on peut avoir 30 ans, on peut avoir 80 ans. C'est pas ça le problème. C'est d'être à l'écoute de son peuple et d'être en capacité de formuler des réponses à ses besoins. On a tout un ensemble de problématiques face auxquelles les gens sont en demande de réponses. Ce n'est pas l'âge. Aujourd'hui, vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand on regarde le taux de participation aux élections, on se rend compte qu'il y a une sorte de démobilisation. La participation politique est faible.
Mais docteur, est-ce que ce n'est pas parce que souvent, la population se dit, mais on va aller voter, ça va toujours devenir la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, les gens ont relâché, ne votent plus assez?
Il y a de ça, mais il y a aussi qu'il n'y a pas en face une offre politique. Parce que quand on croit en la pertinence de l'offre qui nous est proposée, on brave tout ce qui est incertitude pour aller voter, on surveille son scrutin, son vote. Même le Sénégal, dont aujourd'hui on félicite la tenue du scrutin, a connu une crise préélectorale meurtrière. Donc c'est pas ça qui est le problème. Est-ce que les gens se sentent concernés par le vote? Est-ce qu'ils ont le sentiment que lorsqu'ils votent blanc, ça sort blanc?
Comment est-ce qu'en pratique cela peut se faire? Les populations sont allées voter. Comment est-ce qu'elles peuvent protéger leur vote?
Ça se fait ailleurs. Regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, même au Sénégal. Les gens ont voté. Et il y a eu tout un travail de veille électorale, il y a eu tout un travail de veille citoyenne. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important.
Mais et si malgré ça, les institutions qui sont chargées de dire les résultats viennent dire le contraire de ce que le peuple a fait? On fait quoi?
Ceux qui sont à la tête des institutions sont des gens à qui on donne mandat. Et donc si, en lien avec ce mandat populaire qu'on leur a donné, ils ne font pas ce qu'ils se font, on doit pouvoir les interpeller.
On voit qu'au Sénégal, le candidat du parti au pouvoir qui a été battu a félicité l'opposant qui a gagné. Est-ce que vous voulez voir un tel scénario ici en Côte d'Ivoire?
Oui, c'est bien de féliciter, mais il faut juste qu'on travaille à ce qu'on ait une sorte de consensus autour des règles du jeu. Quand il y a un consensus autour des règles du jeu et que celui qui a gagné a bien gagné et celui qui a perdu a bien perdu, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit félicite l'autre.
Diomande Faye, qui vient d'être élu, est soutenu par Ousmane Sonko, c'est un tandem. Alors comment est-ce qu'ils vont gérer le pouvoir? C'est vrai, il a soutenu, mais peut-être qu'il peut avoir des bisbis entre les deux personnalités.
Moi, je pense que s'ils ont été en capacité de s'accorder et de créer le modèle de fonctionnement qu'ils ont eu, il n'y a pas de raison pour que dans l'exercice ou à l'épreuve de l'exercice du pouvoir, ils ne trouvent pas les moyens de s'accorder sur ce qui peut apparaître comme différent aussi, tant est-il que des différents venaient apparaître dans leur conception de la gestion du pouvoir.
Non, on pourra vous rétorquer qu'en politique, tous les coups sont permis, tout peut arriver.
Derrière M. Faye, il y a tout un appareil politique, dont l'une des figures ou la figure de proue a été M. Sonko, mais il reste que c'est à M. Faye que le peuple a donné son suffrage. Donc c'est lui qui est comptable de ce qui va se passer.
Docteur Séverin Kouamé, je vous remercie.
Merci M. Kassi.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Dr Séverin Kouamé, sociologue, était avec Francis Cassis. C'est ce qui referme ce journal, dont voici pour le rappel un seul titre. Présidentielle 2025, le moment choisi par certains partis politiques d'annoncer des candidatures est opportun, selon Geoffroy Julien Kouao. Pour le politologue, mettre en place une stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir à 19 mois des élections est loin d'être prématuré. Merci de nous retrouver à 8h, toujours pour l'information sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.